Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Factory.
Bonjour à vous, c'est la rentrée et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette seconde saison de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les retours de boomerang, les quadruples coups de pied rotatifs et les tatanes raffinées que l'on met au sexisme. Je suis Anaïs et je suis toujours avec mon équipe de l'espace. Salut Margaïde.
Salut, c'est la rentrée. Wouhou.
Salut Elsa.
Eh ben dis donc, quel enthousiasme.
Après ces 2 mois de pause loin du mic, vous en êtes où, vous les filles? Vous avez eu des victoires un petit peu cet été?
Bah écoute, moi j'ai mis mon mode warrior pause en fait cet été. J'avais envie d'être zen après une année passée entre 12 milliards de projets. Donc j'ai pris le temps en fait de juste me déconnecter, revoir mes priorités et revenir tout à fait zen, calme et détendu pour ce début du mois de septembre.
C'est une belle victoire.
Magnifique.
Et toi Elsa?
Bah écoute, moi aussi j'étais pas mal déconnectée, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir de Paris aussi, c'était cool, et j'ai testé la communication non violente suite à un conflit, et franchement ça marche super bien, si à la condition uniquement que les deux personnes soient de bonne volonté et vraiment envie de, bah, que ça marche. Mais moi ce que j'ai perçu en tout cas, c'est que ça rend beaucoup plus facile le fait de se mettre à la place de l'autre, parce que chacun exprime vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti à chaque moment, etc. Et que ça, on peut pas vraiment le nier, donc on est un peu obligé de l'accepter, et ça permet de se mettre à la place de l'autre, et je trouve, enfin du coup je recommande une deuxième fois.
Très bien.
Et toi, Anaïs, alors?
Moi, j'ai quand même une giga victoire cet été, celle d'avoir arrêté Paye Ta Schneck.
Ouais, ça peut paraître paradoxal pourtant, parce que franchement, on a tout été super tristes que tu arrêtes ce projet.
Ouais, mais pour le coup, dans ma vie, c'est une vraie grande victoire. Ça a été une décision hyper, hyper difficile à prendre, que j'ai mis très, très longtemps à la prendre. Et en fait, depuis que j'ai arrêté, ça va tellement mieux, Je me sens 1000 fois plus légère, j'ai l'impression que la vie reprend du goût et je repasse plus de temps sur des choses qui comptent pour moi. Je me suis mise à peindre, etc. Enfin, c'est hyper constructif et du coup, j'ai passé un des plus beaux étés de toute ma vie. Donc, je considère que c'est une sacrée victoire.
Et bah bravo.
Ouais,
et merci pour toutes ces années que tu as passées pour
merci
nous.
Merci beaucoup.
Vous avez été nombreuses et nombreux à nous écrire cet été. Vos messages sont super touchants à chaque fois. Vous posez aussi beaucoup de questions. Du coup, on va lancer notre nouveau mini rituel. À chaque épisode, nous répondrons à une question qui nous aura été posée sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et cette fois, c'est Charlotte qui nous a écrit sur Facebook. Elle nous dit « Bonjour, comment ça se passe ? Lorsqu'on envoie un témoignage, qui le lit ? Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? J'ai écrit un mail, mais je n'arrive pas à me décider à vous l'envoyer. Je suis une warrior timide. » Et Marga, c'est toi qui lui réponds.
Ouais, très touchant aussi ce message. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un an, il serait peut-être temps de vous expliquer un peu comment fonctionne dans notre petite équipe. C'est vrai que vous avez l'habitude un peu de voir comment ça marche. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Book, Instagram, @YesPodcast, vous voyez qu'on lance souvent des appels à témoignages sur les thèmes que l'on va traiter. Et c'est comme ça vraiment qu'on récolte voilà, toutes ces histoires qu'on vous fait entendre tout au long de l'année. Alors, quand tu envoies un email pour répondre à un appel à témoignage, en fait, bah, c'est moi qui les lis. Voilà, je lis tous vos mails. Je m'excuse, même si je sais, Elsa, qu'il ne faut pas s'excuser, mais quand même, je m'excuse. Je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Donc, parfois, il y a des mails qui passent un petit peu à la trappe.
On en reçoit beaucoup en même
voilà,
temps.
Voilà, je suis vraiment désolée. Donc, je les lis, je réponds dans la mesure du possible et du temps que j'ai. Et ensuite, une fois qu'on a reçu un certain nombre de témoignages, je fais un petit peu le tri. Je discute avec vous, les filles, Elsa, Anaïs, de savoir quelle direction on veut donner à l'émission. Et j'essaie de sélectionner des témoignages qui nous feront rire, qui nous feront réfléchir, qui nous donneront la pêche, qui aborderont des sujets graves aussi. Donc en fait, ce qu'il faut se dire quand tu envoies un témoignage, Charlotte, c'est qu'il n'y a pas de raison d'être timide. On prend vraiment tout. On prend tous les témoignages, toutes les histoires et surtout, il n'y a pas de petite victoire. Parce que vous êtes très, très nombreuses à nous dire « j'ai peut-être quelque chose à raconter, mais
c'est pas très warrior. »
Non. On arrête de s'auto-dévaluer. On a toutes des super histoires à raconter qui, même si parfois elles paraissent anecdotiques, si elle est partagée, cette histoire, elle peut faire l'effet d'une bombe si on se la partage. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, je les lis, je les traite. Et si jamais l'histoire que vous racontez, on souhaite la passer dans un épisode, je vous recontacte pour que vous enregistriez avec votre smartphone. Et aussi important, si jamais vous avez la flemme d'écrire ou que vous ne pouvez ou ne voulez pas écrire un mail, vous pouvez aussi nous envoyer un message vocal directement en utilisant l'application dictaphone de votre smartphone. Je les écouterai aussi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Charlotte. Et voilà, n'hésitez pas à rester connecté pour tous nos prochains appels à témoignages qui vont venir pour l'année. Vous allez voir, ça va être super.
Et continuez à nous envoyer des questions. Du coup, on va garder cette rubrique par la suite.
Tout à fait. Du coup, dans ce premier épisode de la saison, on va parler de menstrues, de ragnoutes, de ragnagna, d'anglaises, de rouges, de sang, de muqueuses, de tampons, de coupes menstruelles, de serviettes, d'utérus, d'ovaires, de douleurs, de galères, mais surtout de victoires. En cette douce période du mois, celle où tu tentes de mener une vie absolument normale, alors qu'un combat de free fight est en train de dégénérer dans ton bide.
Mais c'est trop ça!
Elle revient constamment cette période, hein, depuis des années, tous les mois tu la vis, tu la subis et t'as beau avoir de l'expérience, rien n'y fait, chaque fois c'est la guerre. Des techniques de l'espace pour changer ses protections en milieu hostile à la très rude conquête de la guérison, nos warriors enchaînent les grandes actions et méritent toutes les plus belles médailles. Ça va détonner, mais avant de commencer, une petite précision importante. Pour cet épisode, on n'a reçu que des témoignages de femmes cisgenres, mais on tenait à ce que ce soit dit, les personnes qui ont leurs règles ne sont pas toutes des femmes, et toutes les femmes n'ont pas leurs règles. Il y a aussi des personnes trans qui les ont ou pas, bref, ce n'est pas exclusivement un sujet de femmes, et on remercie Lo qui nous a écrit à ce sujet pour qu'on fasse cette précision fort importante. Donc sans plus tarder, on va commencer par le commencement et on va parler des toutes premières règles.
Et oui, cette merveilleuse histoire de nous-mêmes avec nos menstrues, elle commence pas pour toutes à la même période, mais globalement, voilà, entre l'adolescence, la pré-adolescence ou quand on est une jeune adulte. Et parfois, ça se passe pas toujours super bien.
Ça y est. Maman ! Ça y est, j'ai mes règles.
Ma chérie.
Ouais, alors vu qu'on n'a pas les images, voilà, c'est un extrait du film Diabolomante de Diane Curis qui date de 1977. Et voilà, pour celles qui n'ont pas réussi à visualiser, en fait, la jeune fille qui a ses règles, va l'annoncer à sa mère, elle se prend deux gifles. Bienvenue dans le monde des femmes, tu vas t'en prendre plein la gueule. Ça va être super. Donc, je ne sais pas pour vous comment
quelle
ça s'est passé
voilà,
cette période, mais je sais que pour moi, on intériorise, c'est le cas pour beaucoup de jeunes filles. Pour moi aussi, mais on intériorise ce côté honte, ce côté un peu honteux ou genre limite, alors moi c'était limite des conspirations pour aller aux toilettes quand tu savais que ta protection débordait. Je me rappelle d'une fois où j'étais allée assister à un match de basket avec mon groupe de copines du basket et genre j'avais dû aller voir une en mode oui alors donc tu vois faut que j'aille aux toilettes parce que tu comprends j'ai mes règles et machin, du coup j'ai peur que machin, alors qu'en fait juste on peut aller aux toilettes, je suis pas obligée d'expliquer la terre entière. Et j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là que tout le monde, mais toute la salle, c'était une grande salle, c'était un match professionnelle de basket, donc je sais pas, il devait y avoir peut-être 2000 personnes dans la salle. Mais pour moi, j'étais persuadée que tout le monde m'avait vu monter les escaliers avec ma pote pour aller aux chiottes parce que j'avais mes règles, quoi. Enfin, le truc de fou. Hein. Je sais pas si vous, ça vous est pareil, mais.
Si, t'as l'impression d'être grillé à 8000.
C'est clair.
Mais moi, je me rappelle pas tant de mes premières règles parce que j'en parlais beaucoup avec ma mère, etc. Donc c'était un peu un non-événement. Par contre, la première galère, je m'en rappellerai toute ma life. Parce que moi, on m'avait pas prévenu qu'il fallait pas prendre d'aspirine pendant les règles.
Oups.
Et je devais avoir 13 ans. J'ai fini inondée hein, et à redescendre du collège en larmes tachées avec une veste autour de la taille, etc. Et à devoir avouer à mon père, qui était le seul à la maison ce jour-là, que j'étais en pleine hémorragie interne, en fait. Donc ça a été un grand moment. Et par contre, depuis, j'ai bien compris qu'il fallait surtout pas prendre d'aspirine pendant qu'on a les règles. Mais dites-le à vos gosses avant que ça leur arrive, s'il vous plaît.
Pas d'aspirine.
Mais écoute, le tabou, moi, c'est clair que je l'avais complètement intériorisé. J'avais hyper honte tout le temps. J'en parlais vraiment que à mes copines, proches, etc. Enfin, c'était l'enfer. Hein. Et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est pas quelque chose dont je suis à l'aise de parler.
Ouais, c'est pas une conversation évidente.
Avec des mecs, surtout. Hein, voilà, dans le cas ou dans par exemple dans le cadre du travail. Je veux dire, ouais. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire un malaise vagal au travail. Parce que j'avais mes règles, j'allais pas raconter ça à mes collègues, quoi. Je veux dire, et pourtant j'étais limite en train de m'évanouir. Enfin, voilà, tu vois, c'est grave en fait.
Ouais.
Et le pire, c'est que on est des fois chez soi, donc dans l'endroit intime où on devrait sentir bien, et quand on habite encore chez ses parents, c'est pas toujours évident d'en parler librement et d'être à l'aise avec ça quand on a ses règles. Et c'est justement ce dont on va parler à travers le témoignage de Claire. Elle est étudiante à Strasbourg et elle a réussi à imposer le sujet auprès de son père. On l'écoute.
C'était à mes tout débuts avec la cup et à l'époque, pour des questions de facilité, je la vidais et je la remettais sous la douche pour éviter de retapisser les murs des toilettes. Ce jour-là, j'ai laissé ma cup dans la douche que j'ai oubliée. Le soir, en rentrant chez mes parents, je me mets à table avec eux pour dîner. Il y avait mes deux sœurs, ma mère et mon père. Et mon père demande à qui est le bout de silicone bizarre qui traîne dans la douche. Donc je lui dis que c'est à moi. Il me demande à quoi ça sert. Donc je lui dis que c'est une cup qui est là pour récupérer le sang des règles au niveau du vagin. Et donc il me dit que c'est quelque chose de dégueulasse, qu'il faut pas laisser ça dans la douche, que ça se fait pas, etc. Que de toute façon c'est toujours pareil, que nos protections hygiéniques sont trop visibles, que souvent dans la poubelle on les voit, qu'elles sont parfois ouvertes, que du coup on voit du sang dessus, que c'est dégueulasse, qu'on devrait faire attention, mieux les fermer, mettre un morceau de scotch, je sais pas quoi. Je lui dis que non, que le sang des règles c'est tout à fait naturel, que quand on a trois filles et une femme, faut quand même s'attendre à avoir un minimum de sang, à entendre parler de règles, d'hormones, de contraception, de vagin, d'utérus, que c'est tout à fait naturel, que c'est des organes du corps et que si lui n'en a pas, c'est son problème, mais que beaucoup de personnes sur Terre en ont. Et que c'est des choses dont il faut parler, et que si ça le dégoûte, c'est son problème à lui, et que c'est pas notre problème. Et que dorénavant, on va prononcer les mots utérus et vagin aussi souvent que possible, et que nous annoncerons nos règles haut et fort lorsqu'elles seront présentes. Je débarrasse mon assiette, et je lui dis que de toute manière, maintenant, il fallait qu'il nous aide, parce que des fois, on a mal, et du coup, là, moi, j'avais très très mal au niveau de l'utérus, que j'avais des crampes, et que du coup, j'allais me coucher, et que il fallait qu'il me ramène une bouillotte pour calmer mes crampes, parce que sinon, j'allais être de très mauvaise humeur, et que on allait entendre énormément parler d'utérus.
Apporte-moi une bouillotte, sinon je dis utérus. Oui, ma fille, ok, j'arrive.
Putain, c'est génial, j'adore.
Et alors, ça va depuis, on a des nouvelles du père, il s'en est remis ou...
Ouais, je sais pas s'il s'en est remis, mais en tout cas, il a plus jamais parlé de l'horreur qu'il avait à entendre le mot vagin. Donc voilà, déjà une belle victoire pour Claire. En tout cas, bravo, c'est pas facile de tenir tête à son père. C'est pas toujours facile et de briser le tabou comme ça et d'assumer.
C'est presque un coming out là qu'elle a fait. Quoi.
Mais grave.
C'est
clair. Ça me fait penser à dans le magazine Biba en août 2017, ils avaient fait un article qui s'appelait « Ça leur fait quoi quand on a nos règles ?» Donc c'était un espèce de micro-trottoir pour savoir ce que les hommes en pensent. Je vous cite quelques extraits parce que franchement, c'est merveilleux.
Donc je cite le premier, Victor, 34 ans, « Au risque de passer pour un gros beauf, les règles me dégoûtent. Je trouve ça répugnant. Je déteste aller aux toilettes chez une fille et voir ses boîtes de tampons ou de serviettes hygiéniques traîner négligemment. Ça me coupe direct l'envie de faire l'amour. »
Oh traîner négligemment, mais c'est-à-dire... Fin...
Non mais on rappelle qu'en plus un tampon c'est un bout de coton,
hein,
il se met des cotons-tiges dans les oreilles, a priori ouais, sans trop de problèmes.
Les mouchoirs, le papier toilette, tout ça
c'est... ça, tout est dégoûtant. Oh le papier toilette, ouais. C'est, t'imagines si à chaque fois que tu vois du papier toilette, tu
t'as une crise de panique.
T'imagines le caca.
Donc voilà. Ah, bon, après, rapidement, quand on lit l'article, on voit le niveau d'ignorance abyssal de notre échantillon de génie. Hein, je cite. Je sais, c'est la honte, mais en parlant avec ma copine l'autre jour, j'ai découvert que le sang ne sortait pas par le même orifice que l'urine. Elle était épouvantée par mon ignorance en la matière. Mais Hervé, 27 ans.
Sans blague, 27 ans, mec. Mais il était où en cours de bio, lui.
C'est très grave. Et on va évidemment jusqu'au chaton qui gémit, hein, le classique. Je suis jaloux, moi aussi, parfois, j'aimerais pouvoir dire pas ce soir, je suis indisposé. Donc écoute, Blaise, 33 ans, je te souhaite d'être plié en 12 comme je le suis à chaque début de mois. Pas de problème, prends ça à ma place, je partage sans souci.
Oh my god, non,
ils sont graves.
C'est vraiment affligeant. Ok, bah écoute, merci les hommes. Hein.
Pour votre aide précieuse.
N'hésitez pas à aller sur Wikipédia sinon. Et alors moi je voulais quand même faire un point sur un truc que je trouve assez intéressant, c'est que en fait on place les règles comme un symbole très fort de la féminité, notamment parce que c'est un signe de la fertilité de la femme.
Et que la femme est une mère en devenir,
bah
si
oui,
elle n'est pas déjà mère.
On est là que pour pondre des gosses, sinon je ne vois pas pourquoi on serait là. Et d'ailleurs, tout ce qui est associé à la ménopause, à une femme qui n'a plus ses règles, c'est vraiment genre t'es périmée, genre vas-y casse-toi quoi.
Donc, espèce de vieux yaourt.
Et puis j'entends souvent des femmes dire que c'est trop bizarre de pas avoir ses règles, même des femmes par exemple qui n'ont plus leurs règles parce qu'elles allaitent. Plusieurs m'ont dit qu'elles trouvaient ça bizarre parce qu'elles se sentaient moins femmes en fait. Ou la peur d'être ménopausée comme je disais, et en même temps par ailleurs, bah comme on disait juste avant, c'est considéré comme un truc vraiment très tabou et vraiment dégueu. Donc bon, on n'est plus à une injonction contradictoire près, mais quand même ça me semble important de faire un point sur ça. Donc bon, déjà il y a plein de moments où on n'a pas ses règles, donc déjà pendant toutes les grossesses et période d'allaitement, pour celles en tout cas qui ont des enfants. Ensuite bah la ménopause, comme tu disais tout à l'heure, les femmes trans, et il faut savoir aussi que c'est récent en fait qu'une femme ait ses règles pendant de nombreuses années. Et comme l'a dit Martin Winkler,
c'est ça.
Avant, bah, y avait une mauvaise alimentation, les femmes étaient enceintes tout le temps. Donc typiquement, aujourd'hui, une femme américaine a ses règles en moyenne 450 fois au cours de sa vie. Donc c'est quand même énorme, contre bah, typiquement 180 fois pour une femme aborigène d'Australie, donc qui a un mode de vie plus, on va dire, traditionnel. Par ailleurs, au Paléolithique, les femmes avaient leurs premières règles à 18 ans. Donc tout ça pour dire que la façon dont on a nos règles aujourd'hui dans les sociétés occidentales, etc., c'est pas du tout quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. En fait.
Ça évolue avec le temps. En fait.
Déjà, voilà, pour que ça ce soit clair. Et ensuite, une femme en bonne santé peut s'en passer sans risque. Donc vous pouvez très bien ne pas avoir vos règles et déjà être toujours fertile. Et d'ailleurs, la contraception hormonale provoque des fausses règles.
C'est ça, ouais. Moi, je l'ai appris super tard, ça. Ouais. Et j'ai été un peu choquée. Genre, c'est des règles qui ont été mises artificiellement. Parce que normalement, la contraception hormonale, bah, t'as plus de règles. Puisque ça reproduit l'état de grossesse. En fait, ça fait croire à ton corps que tu es enceinte, mais tu n'es pas enceinte, heureusement. Et du coup, ouais, c'est cette pose de pilule qui fait des saignements qui ne sont pas des règles. Donc, on n'en a pas besoin. Quoi.
Voilà, on n'en a pas
besoin. Mais on ne nous le dit pas. On ne nous dit pas qu'on n'a pas besoin, qu'on peut la prendre en continu sans risque.
Exactement. Et du coup, bah, voilà, pour les femmes, en tout cas, qui souffrent énormément et qui ne sont pas contre le fait de prendre la pilule ou qui n'ont pas trop d'effets secondaires avec la pilule, bah, vous pouvez vous pencher sur cette option. Le fait de ne plus du tout avoir ces règles, ça ne va
je
pas...
Je l'ai fait.
Voilà. Alors, raconte-nous ton expérience.
Moi, je l'ai fait, mais c'était avec un implant. Un implant hormonal que j'ai porté pendant un peu plus de 3 ans.
Ouais.
Et on m'avait dit, ça peut être terrible. Des fois, tu peux avoir des saignements un peu continus, donc ça, c'est vraiment l'enfer. Des effets secondaires, mais moi, je supportais très bien la pilule, donc a priori, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Ou alors, on m'avait dit, sinon, il y a aussi la possibilité de ne plus du tout avoir de règles avec cet implant. Je me dis, mais génial, allez, on essaye tout de suite, surtout que j'oubliais
et
très
toi,
souvent.
Ça a marché, ouais. Du coup.
Et moi, en fait, pas d'effets secondaires. Je la supporte très très bien et ouais, pas de règles pendant 3 ans et demi. Et
ben,
c'était trop trop bien en fait.
Bah ouais.
C'était vachement bien. Et là, de retrouver les règles. Alors, moi, je l'ai pas du tout vécu comme un retour à la féminité et mon corps machin. Moi, je le vis comme un enfer, en fait. Enfin, c'est non. je déteste avoir mes règles, en fait. J'ai mal et je suis de mauvaise humeur. Non, j'aime pas ça. Voilà.
Bah, c'est ça. Et je pense qu'en tout cas, pour les femmes qui ont vraiment des douleurs super dures, vous pouvez essayer ça parce que ça peut être une solution. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, forcément.
C'est une solution qui existe, qu'on peut tester et abandonner en fonction de soi, de son corps, de ses envies, de ce qu'on... Enfin, soyons informés et prenons nos décisions. Voilà,
c'est ça.
La base.
Eh bien, on va continuer sur la thématique de la douleur, puisque là, on va écouter Camille. Camille, elle a 30 ans, elle fait de la chorale. Donc, pendant les répétitions, tout le monde est debout en cercle, mais ce jour-là, c'est le premier jour de ses règles. Du coup, elle reste assise pour atténuer ses douleurs. Et elle nous raconte ce qui se passe quand le relou type insiste pour savoir pourquoi elle reste assise.
Je réponds que c'est parce que j'ai un peu mal au ventre. Et puis, du coup, lui, il insiste et veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe Et donc, je lui dis, ça arrive, écoute, ça me soulage d'être un peu assise. Et puis, ça n'arrête pas là, donc il me demande, t'as une gastro ? Donc, du coup, ça commence à me saouler un petit peu, et donc je le regarde bien droit dans les yeux, et je dis bien fort pour que tout le monde entende, écoute, j'ai mal à l'utérus. Et là, il a eu l'air hyper gêné, il a baissé les yeux, c'était assez marrant. Les gens rigolaient, d'ailleurs. Et je trouve que c'est assez révélateur, en fait, du fait que... Souvent, en fait, les gens qui essayent de charrier comme ça sur les règles, qui poussent un peu, qui taquinent sur ce sujet, c'est souvent les gens qui eux-mêmes sont gênés par le sujet et qui, du coup, se disent je vais la pousser à essayer de dire quelque chose qu'elle n'a pas envie de dire. Et donc, il était complètement désarçonné de voir que pour moi, ce n'était pas du tout un sujet tabou et que j'avais pas du tout honte de ça et que c'est quelque chose de complètement normal.
J'ai mal à l'utérus, ok, maintenant tu me lâches.
C'est clair. Oui, c'est hyper important qu'on commence, nous aussi, à en parler devant des hommes cis, quoi, qui connaissent pas du tout le sujet, parce qu'en fait, c'est vrai, c'est comme ce qu'on disait par rapport à l'article de Biba, il y a une ignorance, mais abyssale, sur leur sujet. Un homme cis peut passer toute une vie sans jamais apercevoir la moindre goutte de sang de menstruation, quoi. C'est quand même incroyable. Donc c'est hyper important d'en parler. Et puis il y a un autre sujet aussi où moi ça m'a vachement aidé quand j'ai découvert que ça existait, c'est le syndrome prémenstruel.
Ouais.
J'ai passé des années à déprimer tous les mois, mais déprimer comme jamais, chaque mois à la même période, sans me rendre compte qu'en fait c'était régulier. Mmh. Et c'est mon ex qui m'a dit, mais tu te rends compte que tous les mois à la même période, t'es au fond du seau. Je peux être en vacances avec mon amoureux dans un lieu paradisiaque et être persuadé que ma vie c'est de la merde, que personne ne m'aime et que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Donc, quand j'ai découvert l'existence de ce fameux syndrome prémenstruel, j'ai commencé à pouvoir gérer ces émotions. Et du coup, on va avoir un témoignage là-dessus, Elsa ?
Tout à fait. Enfin, en fait, sur le cycle de manière générale et entre autres sur le syndrome prémenstruel. D'ailleurs, je voulais parler du compte Instagram SPM Ta Mère. Mmh. Je vous invite tous à aller le checker, le suivre, parce qu'il y a énormément de témoignages de femmes qui ont des syndromes prémenstruels, mais incroyable. Enfin, je veux dire, moi, je me sens vraiment chanceuse quand je lis ça parce que, enfin, voilà, des fois, je peux être fatiguée, ce genre de choses, mais il y a des femmes vraiment qui ont des effets, mais incroyables, enfin, super durs, vraiment. Donc voilà. Et là, on va écouter en fait Marion qui s'est penchée sur la nature cyclique en fait des règles et son fonctionnement. Et voilà.
Le premier jour de mes règles, ça a toujours été l'horreur. J'avais des symptômes de grippe, de gastro, les deux en même temps. Enfin, c'était toujours dans la souffrance. Puis j'ai lu La puissance du féminin de Camille Sfez et aussi Lune rouge de Miranda Gray et ça a tout changé. Depuis, je m'organise en fonction de mon cycle menstruel. On sait qu'un cycle dure environ 28 jours, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il se découpe en quatre phases. Prémenstruel, menstruel, préovulatoire et ovulatoire. Et au cours de ces phases, on développe des capacités spécifiques. On peut par exemple remarquer que notre humeur, notre énergie, notre libido fluctuent. Et c'est normal. Toutes les personnes dotées d'un utérus sont cycliques. Et ça ne sert à rien d'attendre de nous qu'on soit constante ou linéaire. Nous sommes cycliques. Savoir ça, ça change tout. Parce que ça me permet d'adapter mon emploi du temps et mon alimentation à mon cycle. Et d'accueillir mes règles en douceur. Je n'ai plus mal. Ma grande victoire, c'est que je suis tellement connectée à mon utérus que je pratique le flux instinctif libre, ça me permet de me sentir puissante et libre justement. Je trouve ça fou que la nature cyclique des femmes soit si peu connue. Alors j'organise des cercles et des ateliers pour en parler et pour diffuser l'information. Nous sommes cycliques et nous sommes puissantes.
Merci Marion.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez une réaction par rapport à ça. Non, mais moi, je trouve qu'elle a raison. Enfin, ça change tout, en fait, de le savoir.
Oui, de le savoir, oui. Après, ça, moi, je n'adhère pas forcément à ce qu'elle peut faire, au changement, parce que ce n'est pas toujours possible, en fait, en fonction du métier qu'on fait et des conditions dans lesquelles on vit, de pouvoir adapter en fonction de son cycle. Mais c'est vrai que de le savoir, enfin, comme tu disais tout à l'heure, Anaïs, moi, quand je l'ai appris, bah, en fait, ça permet de
mieux comprendre ce qui t'arrive
donc et puis de savoir que si t'es au fond du seau ben c'est pas grave, dans deux jours ça ira mieux quoi.
Oui non mais de savoir d'où ça vient ça aide beaucoup et je lui ai quand même demandé en complément en fait sur au niveau de l'alimentation qu'est-ce qu'elle changeait dans son régime et elle m'a dit que dans la phase prémenstruelle donc on va dire la semaine avant les règles, elle réduit énormément voire arrête totalement tout ce qui est alcool, café, gluten et lactose parce que c'est des familles d'aliments qui sont très inflammatoires. Et elle dit que quand elle arrive en fait à l'arrêter complètement, bah là elle a vraiment plus du tout de douleur. Alors qu'avant, comme elle disait, elle avait vraiment super mal le premier jour et tout. Et tout au long du mois, elle essaye de consommer beaucoup d'huiles végétales qui sont riches en oméga-3 parce que c'est anti-inflammatoire. Elle a dit attention, il faut pas les chauffer d'ailleurs.
D'accord,
les,
ok.
Les huiles. Et par ailleurs, si jamais vous voulez suivre un peu ce qu'elle fait, parce qu'elle organise des ateliers et tout ça, comme elle disait, c'est pas encore en ligne, mais elle est en train de créer une maison d'hôtes autour de la sororité, de la maternité, etc. Donc c'est @maisonsouslalune sur Insta. Donc voilà, vous pouvez suivre et quand elle commencera ses ateliers, elle le mettra.
Ouais, mais je comprends vachement ce qu'elle dit quand on dit on est puissante. En fait, c'est juste le fait de pouvoir être actrice du truc, ouais. Pas juste subir, ça. Mais de.
Et puis de se reconnecter. Elle parle de connexion à son utérus. Typiquement, moi, je suis absolument incapable de me connecter à quoi que ce soit qui me concerne. En fait, il y a aucun réseau entre mon corps et ma tête. Mais du coup, il y a pas mal de personnes qui se lancent sur cette pratique du flux instinctif.
Oui, mais qu'est-ce que c'est ?
Justement, bah, c'est le fait de ne pas porter du tout de protection hygiénique et de laisser en fait de gérer soi-même son flux et les moments où il faut aller aux toilettes, etc. Mm-hmm. Donc il y a justement Lucie qui va nous en parler. Elle ne met pas de protection hygiénique, elle va aux toilettes quand besoin est et le reste du temps finalement elle retient. Donc elle va nous donner quelques tips pour bien gérer cette pratique.
Évidemment, il y a des petits trucs à savoir, comme mettre des sous-vêtements noirs. Il y a surtout la technique qu'on dit aux petits enfants de faire avant de faire des voyages. Donc, va faire pipi, même si t'as pas envie, on sait jamais et tout. Ça, c'est hyper important d'aller tout le temps aux toilettes, même si tu le ressens pas. La meilleure comparaison que j'ai trouvée pour faire comprendre le principe aux filles qui imaginaient ça impossible, c'est de leur demander si elles arrivaient à retenir le sperme après un rapport. Et étonnamment, plus de la moitié se disent « Ah oui, en fait, c'est vrai, je fais ça, c'est peut-être possible. » Je dis « Bah oui, fais ça plus longtemps et t'y arriveras. » Donc le but, c'est pas de commencer direct, de le faire tout le temps, d'aller faire du sport. Vous pouvez commencer chez vous sur des durées de plus en plus longues. Si c'est pour s'ajouter une dose de stress, en fait, c'est pas la peine, c'est pas le but. Il y a l'avantage économique, il y a l'avantage sanitaire où on se met pas des choses étrangères, où on sait pas ce qu'il y a dedans dans notre vagin ou sur notre culotte. Donc rien ne vous empêche de vous lancer. En fait, vous pouvez toujours changer d'avis et retourner à votre habitude précédente, il n'y a rien qui vous lie. Donc juste essayez.
Eh ben.
Ouais, non, bah moi j'ai déjà essayé et franchement, je vois très bien ce qu'elle veut dire et ça marche. Et je pense que quasiment tout, on l'a déjà fait sans faire exprès, ouais. Sans y penser. Et c'est ce que beaucoup de femmes qui le font disent en fait, c'est qu'elles se sont rendues compte qu'en fait elles l'avaient déjà fait plein de fois sans faire exprès quoi. Et voilà, et après effectivement, moi je sais que j'ai pas poussé le truc comme elle, mais j'aimerais bien. Mais déjà rien qu'au moins les jours où on est chez soi, on ne prend pas énormément de risques à tester quoi.
Bah, moi je sais que quand je suis chez moi, justement j'ai tendance à être juste avec une serviette ou quoi, parce que je veux que tout puisse s'évacuer tranquillement. Mais pour notamment essayer cette histoire de flux instinctif, je me suis acheté des culottes menstruelles.
Ouh là là.
Et là ce week-end c'était ma toute première expérimentation et
alors,
je dois vous dire que c'est un échec total et cuisant.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'en fait la surface là, de recouvrement, j'en sais rien. Elle est pour moi, en tout cas, mal étudié, ouais. Et du coup, bref, et comme évidemment, comme je le disais, je ne gère absolument rien, je suis complètement dominée par mes règles, ben, Voilà, ah, ça a mince. Été.
Mais pendant même la journée ou
quand Ouais. Ah ben du coup, j'ai dû en mettre 3 en quelques heures. Il avait vraiment fallu que j'échange tout le temps. Et donc, c'est pas pour moi. Finalement.
Donc, ça a débordé, quoi.
Ou ouais. Un autre modèle.
Il va falloir que j'en achète d'autres. Ouais, je sais pas. Mais du coup, j'étais hyper déçue.
Ça coûte un peu la peau des fesses, quoi.
Voilà, ça coûte super cher. Donc, déjà, c'est une grosse déception parce que j'ai mis de l'argent. Et puis, moi, j'étais persuadée que ça y est, j'avais trouvé la solution qui fait qu'effectivement, j'aurais pu à mettre de Tampax. C'est vachement plus écolo, etc. À long terme, ça coûte moins cher, tout ce que tu veux. Mais là, du coup, voilà, échec. Donc, je suis revenue sur mes bonnes vieilles méthodes de 15 ans, quoi.
Moi, j'ai eu un accident une fois de flux instinctif libre. Parce qu'en fait, je pensais que ça y est, c'était bon, je pouvais y arriver. J'avais réussi quand même chez moi, ça marchait plutôt pas mal. J'arrivais bien à le sentir, tout ça. Et du coup, j'y arrivais, mais pas les deux premiers jours où vraiment, c'est vraiment compliqué. Et donc là, c'était un troisième jour de règles. Je me dis, allez, flemme de mettre ma cup. Je pars sans rien. Et évidemment, on partait faire du vélo.
Ah ouais, genre, tu prends des risques directs.
C'est clair.
Avec mon amoureux, des copains, pour aller manger dans un resto un peu chic et tout. Et là-bas, je vais aux toilettes. Je me dis, ah oui, bah tiens, ça arrive. Enfin, là, le sang arrive. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était déjà arrivé en fait bien avant. Et en fait, j'avais une super jolie compi short noire avec des poids. Et en fait, c'était taché entre les jambes, quoi. Donc bien, bien chaud. Heureusement, j'ai une copine beaucoup plus prévoyante que moi qui prévoyait d'avoir ses règles dans la journée ou le lendemain et qui en fait avait une culotte de règles. Alors, je sais que ça peut paraître dégueu à certains, à certaines, mais elle m'a prêté sa culotte de règles et elle m'a un peu sauvé la vie. Et bon, comme j'étais avec des potes avec qui je m'entends bien et avec qui j'étais en confiance, je vais plus le dire, merde. Merde, ça a débordé. Et j'ai pu continuer ma journée tranquillou. Je suis même allée boire l'apéro après avec des copains. Ma petite histoire d'échec. Donc ça marche, mais pas tout le temps.
Il faut être bien entraîné, quoi.
Ouais.
Avant de sortir, faire du vélo et tout ça.
C'est ça.
Bien, on passe à notre warrior suivante. Marga, tu nous présentes Alexandra.
Et oui, parce que ça, on en a parlé un petit peu vite fait, mais on a souvent mal. Enfin, moi, je sais que j'ai mal pendant mes règles. Et Alex, elle nous écrit de Genève, en Suisse. Et elle a eu des douleurs les premiers jours, mais vraiment hardcore, quoi, qui l'empêchait d'aller en cours ou d'aller bosser. Et pourtant, elle a découvert qu'en fait, il existait une solution à son problème. Elle nous raconte.
J'en avais parlé à mon ancienne gynécologue. Bon, il se trouve que j'avais un peu des problèmes relationnels avec cette personne qui n'étaient pas liés que à sa réaction par rapport à mes douleurs, mais au fait que je me sentais vraiment pas safe avec elle en tant que moi, en tant que personne LGBT+. Donc voilà, je me sentais dans l'inconfort, elle me rassurait pas, jamais elle m'a exprimé qu'elle était ouverte à ça, donc du coup je partais du principe qu'elle y était plutôt fermée. Ma doctoresse généraliste, je lui en ai parlé et elle m'a dit qu'elle pouvait me recommander quelqu'un. Et là je suis arrivée chez une soignante, enfin une gynécologue, dont la réaction a été assez différente. On a fait la première séance là où il faut donner le plus de renseignements possible sur soi. J'ai voulu éviter de me sentir mal à l'aise par rapport à tout, en fait, ce qui pouvait me concerner. Donc, je lui ai déjà tout balancé en me sentant vraiment libre et en me disant que si elle réagissait mal, après tout, j'aurais qu'à me barrer et la dénoncer auprès des gens que je connaissais pour pas qu'on aille chez elle et tout, et je trouverais une nouvelle. Et ça m'a rassurée. Et du coup, on est arrivé sur le sujet de mes douleurs. Je lui ai décrit plus ou moins ce que ça impliquait pour moi, de manquer le boulot ou les études une fois par mois, d'avoir mal au point de pleurer, d'avoir les jambes tremblantes au point que ça m'arrivait d'entrer en taxi parce que je pouvais pas marcher, voilà. Et elle m'a dit que ça n'était pas normal. Et donc, en fait, à 26 ans, on m'a mis devant le fait que, en fait, c'était pas ça la normalité, c'était pas crever de mal, en fait, chaque mois. Au premier ou au deuxième jour, c'était pas être sous antidouleur toute la journée sous alcool le soir que c'était pas sain et qu'en fait il pouvait exister par exemple elle m'a proposé un médicament à base de plantes et je prends ça tous les jours. ces jours-là où je suis sous antidouleur, j'en prends un ou deux dans la journée. Je suis pas très en forme, mais voilà, genre je peux aller travailler, j'ai rien à annuler, je me sens bien. Là, je pense que ça se sent dans ma voix que je me sens bien. Je pense qu'il faut pas hésiter à parler de ça et à se dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait se résigner à se dire, bah, quand on a ses règles, on a mal, puis c'est tout. Puis ça fait partie de notre quotidien. Bah non, bah merde, en fait. Donc voilà, parlons-en. C'est pour ça que je tenais à témoigner.
Et voilà, comment en déshérence médicale, en errance médicale, on met à 26 ans, comme elle dit, à savoir qu'il y a un traitement. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, hein, le manque d'écoute, le manque d'empathie du corps médical sur les douleurs. C'est genre, oh, c'est bon, chouchoute.
Encore machin. Une hystérique.
Voilà, c'est ça, exactement. Je me suis un peu renseignée sur le médicament que prend Alex en consultant ma pharmacienne préférée, qui est ma copine Elsa, pas celle qui a 6 en face de moi, mais une autre. Alors, donc ce médicament, c'est un médicament donc à base de plantes. C'est du gâtillier. En fait, c'est une plante qui agit dans les douleurs de règles. Et apparemment, c'est connu et c'est même étudié en fac de pharmacie. Moi, j'en avais jamais entendu parler.
Moi non plus.
Et personne ne m'en a jamais parlé.
Jamais.
Voilà. Donc on peut le trouver sous forme de gélule, on peut aussi le trouver en herboristerie pour se faire des tisanes. Alors l'inconvénient, c'est quand même que c'est un traitement de fond. Donc comme le dit Alex, il faut le prendre tous les jours, soit un comprimé tous les jours ou des tisanes tous les jours. Il faut vraiment faire attention. Et l'autre problème également, c'est que ce n'est pas du tout remboursé. Donc c'est un traitement qui peut à la longue revenir cher.
Ouais.
Mais au moins, ça existe et il y a des solutions médicales, en tout cas de soins qui existent. Et voilà, donc ce serait bien de nous passer l'info un petit peu, les médecins.
Oui,
là.
Bah oui, n'hésitez pas, oui.
Ça qui va nous amener quand même au sujet assez tendu dont on va parler par la suite, Elsa.
Ouais, bah maintenant on va parler de l'endométriose parce que quand même c'est on peut pas parler des règles aujourd'hui sans parler de ça. Donc pour expliquer rapidement ce que c'est, donc c'est une maladie gynécologique qui est causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Et donc c'est une maladie chronique qui touche 5 à 20% des femmes en âge de procréer, et 40% des femmes qui se plaignent de douleurs dans le bas-ventre. Donc c'est énorme, en fait. Enfin, faut se rendre compte quand même que j'avais entendu aussi dans un autre podcast que c'était une femme sur 10, quasiment. On connaît toutes des femmes qui ont l'endométriose,
ouais,
en fait.
Et la plupart ne savent pas qu'elles ont l'endométriose.
Énormément ne le savent pas. Ça peut prendre entre 8 et à 10 ans entre les premiers symptômes et la confirmation du diagnostic, sachant qu'il faut faire pour la plupart un IRM en fait pour le diagnostiquer. Donc c'est pas quelque chose qu'on va vous prescrire comme ça. Et comme en plus, comme on disait, enfin dans le corps médical, il y a beaucoup d'a priori sur les douleurs des femmes et on les prend pas au sérieux. Énormément de gynécologues qui en plus ont pas l'air d'être formés sur cette maladie, mais genre vraiment vraiment pas, ont pas forcément le réflexe de dire à leur patiente, bah en fait faut que tu ailles faire un IRM quoi, parce que là si tu as ce genre de douleur, c'est pas normal. Par rapport à ça, je vous conseille d'écouter un nouveau podcast qui s'appelle Let's Chat, qui ont fait un épisode sur l'endométriose qui est pas mal du tout,
ouais.
Donc elles expliquent vraiment bien ce que c'est.
Je recommande également.
Il y a beaucoup de témoignages de femmes qui en sont victimes et qui racontent leur parcours, en fait, comment elles l'ont découvert, la réaction des gens par rapport à leur douleur, que ce soit leur famille, leurs amis, au travail, etc., etc., comment elles se sont fait soigner ou pas. Donc voilà, et moi j'ai demandé en fait à une amie à moi qui est atteinte d'endométriose de nous raconter un peu son parcours. Donc elle a 30 ans aujourd'hui, elle a été diagnostiquée à l'âge de 23 ans, sachant qu'elle a eu ses premières règles à 11 ans. Donc je vous laisse imaginer le temps de latence assez sympa, quoi. Déjà juste pour le savoir, donc après la guérison c'était encore une autre étape.
Donc moi, j'en suis atteinte depuis l'âge de 11 ans, lors de mes premières règles. Donc classique, des douleurs, des crampes, l'impression d'avoir des couteaux dans le ventre, avoir mal au dos, épisodes dépressifs avant et après. Voilà, donc les absences scolaires répétitives, les absences au travail qui peuvent commencer de un jour jusqu'à deux, 2, 3, 4 jours en fonction du flux et en fonction du taux de la douleur, des médicaments à base d'opium que je ne citerai pas, des médicaments qui sont très forts, qui modifient un peu toutes les perceptions. Et puis un jour, on vous propose la pilule, donc la pilule qui est censée assécher l'inflammation. Et puis un jour, je me suis réveillée. Donc je passerai les détails. Je me suis réveillée et je me suis dit, si c'est une maladie qui s'apparente aux maladies auto-immunes et si c'est une maladie inflammatoire, dans ce cas-là, ça veut dire que je me la suis mis auto-immune. Je me suis créé ma maladie, donc je peux me la retirer. À partir de ce moment-là, c'est un boulevard qui s'ouvre devant moi. Je fais des recherches au niveau de la médecine allopathique, des médecines qui pourraient peut-être m'aider. Je fais des recherches, je commence à changer mon alimentation, je fais du sport. Et puis à partir de ce moment-là, je commence à aller voir des énergéticiens. Je commence à travailler sur tous les plans, en fait. Le plan mental, le plan émotionnel, le plan physique. L'esprit, le corps, le cœur. Je travaille tout ça. Je me crée des mantras, des affirmations. J'essaie de convaincre mon corps, j'essaie de déprogrammer mon corps de cette maladie. Je parle à mon corps, je lui fais des lettres. Après chaque moment où j'ai fait du sport, en pensant à ça très fort, je me concentre sur mon utérus et je lui parle. Et je lui demande de marcher avec moi. Je dis à mon corps, on va y arriver. En fait, l'endométriose et l'adénomyose, c'est comme un cancer dont on ne meurt pas. Et puis, 2 ans après tout ce parcours, je me retrouve devant une IRM, dont l'intitulé est complété par « Absence d'endométriose et d'adénomyose visible ». Voilà, plein d'amour pour vous, mes warriors. Et faites-vous confiance, allez vers les outils qui vous font du bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans et je ne suis plus atteinte d'endométriose. Je n'ai plus mal.
Waouh !
Ouais,
on est sur une autre planète, là.
Complètement. Anaïs, c'est une fille très très spéciale. Moi, je l'adore vraiment. Et en fait, elle a vraiment choisi d'avoir une approche holistique, comme elle dit. Holistique, c'est-à-dire qui prend tout en compte, comme elle dit, à la fois le mental, le physique, etc. Donc là, elle a pas tout dit, mais elle est allée voir notamment une naturopathe qui s'appelle Nana Turopathe. Elle m'a dit qu'il fallait que je la recommande absolument parce qu'elle est vraiment spécialisée sur l'endométriose. Quand elle le raconte, on peut avoir l'impression que c'est facile, entre guillemets, parce qu'elle a mis que 2 ans à guérir, etc. Mais c'est énormément de travail. Enfin, elle a vraiment mis toute son énergie.
Et puis après, déjà, quasiment 15 ans de douleur. Donc,
en plus.
Ça va, 2 ans, c'est pas si court que ça.
Voilà. Et puis, c'est aussi beaucoup de temps et d'argent, hein, parce que tous les spécialistes qu'elle est allée voir, elle a fait de l'hypnose, elle est allée voir des psys. Elle a vraiment essayé de chercher en elle qu'est-ce qui allait pas, de régler ses problèmes profonds, ses traumatismes, etc. Donc oui, juste pour préciser que c'est pas genre comme ça en claquant des doigts, hein, ça demande énormément de temps et tout le monde peut pas se permettre de prendre ce temps-là. Elle est intermittente, donc elle a des moments où elle travaille pas, où elle peut vraiment se centrer sur elle, mais effectivement elle a quand même passé énormément d'années à souffrir, à avoir, comme elle disait, à ne pas pouvoir aller au travail plusieurs jours par mois, des choses comme ça qui sont très dures à expliquer, à justifier. Et après, comme elle dit à la fin, il faut trouver les outils qui marchent pour vous. Elle a aussi une amie qui m'avait envoyé aussi un témoignage qui, elle, par contre, a été opérée 7 fois. Faut savoir que voilà, une des façons de guérir, c'est aussi d'opérer. Il suffit pas forcément de juste faire du sport et de l'hypnose. Il y a plein de femmes
tous les cas sont particuliers.
Tous les cas sont particuliers, etc. Et puis chaque personne doit choisir son chemin de guérison. Donc Anaïs, vous pouvez la suivre sur Instagram parce que maintenant elle est ce qu'on appelle endo-coach. Donc elle peut coacher des femmes qui ont l'endométriose et les aider dans leur parcours. Donc son Instagram c'est @naisyn, donc NAISSYIN. Elle m'a dit aussi de conseiller le Centre Saint-Joseph à Paris parce que c'est des spécialistes de la question. Parce que je sais que c'est très dur de trouver aussi les bonnes personnes à qui parler. Et encore une fois, donc naturopathe, elle c'est une naturopathe qui parle donc d'alimentation, sport, phytothérapie, méditation, exercice de respiration, et elle a créé un programme de formation en ligne pour mieux vivre avec l'endométriose. Elle m'a parlé aussi d'une chirurgienne qui s'appelle Zakharopoulou, qui apparemment aussi est assez béton sur ce sujet-là.
Est-ce que ça dit aussi, enfin, à travers ce témoignage, ce que j'entends aussi, c'est le défaut en fait de recherche dans la médecine, enfin entre le temps de diagnostic et puis aussi le défaut de prise en charge et de soins de la maladie. Alors, on n'aura pas le temps, je pense, de trop développer cette question, mais si ça vous intéresse, vous pouvez écouter un podcast qui s'appelle La Menstruelle, mm-hmm. qui est super, qui parle des règles en général, de plein de sujets. Ils ont fait un épisode sur l'endométriose et notamment, ils interrogent une chercheuse, en fait, qui est spécialisée dans la recherche sur l'endométriose et voilà, qui dit qu'il y a énormément de retard sur cette maladie, notamment parce qu'on a sous-estimé la parole et les douleurs des femmes, en
totalement,
fait,
tout simplement. Ouais.
Voilà, donc La Menstruelle, un podcast, voilà, vraiment à écouter si ça vous intéresse.
Mm-hmm. Bien. Et si c'était des hommes qui avaient endométriose, je pense qu'on aurait un niveau de guérison aussi simple que celui.
La NASA serait sur le coup depuis longtemps.
Oui, c'est ça, parce que par exemple sur le cancer de la prostate, par exemple, il y a moins de, enfin, je sais pas, y a, le tabou est brisé depuis un sacré moment, alors que ça pourrait être honteux aussi le cancer du côlon.
Bon, alors maintenant qu'on est bien triste, déjà on envoie du soutien à absolument toutes les personnes qui sont touchées par endométriose, parce que c'est déjà pas facile quand tu l'as pas, alors quand tu l'as, ça devient vite l'enfer. Donc soutien à tout ce monde-là. Et maintenant, on va changer un petit peu de ton, il va falloir qu'on se marre un peu, non ?
Ouais, ouais, je serais toi. Allez, alors c'est le genre de témoignage que franchement, moi, je ne m'attendais vraiment pas à recevoir. Alors c'est Eugénie qui nous raconte son histoire. Elle a 23 ans et ça s'est passé il y a quelques années pendant une feria. Donc on est dans le sud-ouest de la France. Donc qui dit feria dit soirée alcoolisée et qui dit on fait des trucs franchement débiles. Comme un de ses potes qui a voulu ouvrir une bouteille de vin sans tire-bouchon en explosant le goulot, hein, comme c'est intelligent. Et elle raconte la suite.
On rigole, jusqu'à ce que notre pote hurle. Je me suis ouvert le doigt. On n'avait rien pour arrêter l'hémorragie. Bah, on panique, on essaye d'enrouler les bouts de sopalin qu'on a. Et là, je sais plus qui balance. Mais attendez, on est cons. On est des nanas. On a des tampons. Mais oui, bien sûr. Et donc du coup, on se met à chercher dans nos sacs le plus gros tampon qu'on ait. On le sort, on l'applique sur la plaie. Et notre pote nous regarde de manière assez dubitative, comme s'il disait « Mais qu'est-ce que vous foutez, les meufs, c'est n'importe quoi ?» Et en fait, il se rend compte que ça absorbe bien le sang. Bah oui, c'est fait pour. Donc du coup, je me suis retrouvée à devoir lui tenir la main tout le reste de la soirée, parce que il était incapable de serrer les doigts. C'était assez drôle de se balader avec mon pote, la main pleine de sang, moi, la main pleine de sang, et la petite ficelle du tampon qui se baladait entre nous. À partir de là, je l'ai trouvé quand même vachement plus détendu et moins mal à l'aise à chaque fois qu'on parlait des règles, de manière générale.
Et voilà, comment briser le tabou des protections hygiéniques.
Une utilisation à laquelle on n'avait pas encore pensé.
C'est vrai, il faut varier, il faut montrer que ça peut servir de mille façons.
C'est clair.
Pansement, pourquoi pas, remarquable, c'est vrai, c'est fait pour.
Et ça marche aussi dans l'autre sens, parce qu'on avait Apolline qui nous avait envoyé un témoignage, mais l'audio n'a pas fonctionné. Elle a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle était dans le train, et là, grosse galère, retour de couche, dans le train, avec son bébé en écharpe, et bien sûr, pas de protection hygiénique sur elle. Et là, réflexe de survie, une couche de bébé ouverte dans la culotte, ça fait office de serviette. Bon, apparemment, c'est pas super confortable, mais ça a sauvé son trajet. C'est une belle technique de l'espace en milieu hostile.
Ça, c'est clair.
Grave.
Donc voilà, les serviettes peuvent servir à d'autres choses, et d'autres choses peuvent aussi servir de serviettes, faut le savoir.
Oh, j'aurais trop aimé parler de plein de trucs encore, là. On n'a pas assez parlé de serviettes, de cups. Faudra qu'on fasse une émission, là, je crois.
J'ai prévu de te parler de serviettes et de cups, mais là, ça va être un petit peu moins drôle, mais en tout cas, ça va donner des moyens à ce que celles et ceux qui le veulent de s'engager. On passe à notre nouvelle rubrique, c'est la rubrique Gang the Warrior.
Yeah.
Oh yeah.
On va parler d'action collective. Et donc, sur la thématique d'aujourd'hui, je trouvais important de parler de la précarité menstruelle. En France, deux personnes sans abri sur cinq sont des femmes. Et quand on a ces règles, on a des besoins spécifiques. Et donc, quand on est précaire, c'est hyper compliqué de se procurer des protections et de maintenir une hygiène correcte. Donc, ça s'appelle comme ça. Précarité menstruelle, c'est un vrai grand problème. Et pour s'en sortir quand même, elles se servent parfois de papier journal, de chaussettes ou de sopalin. On garde le tampon le plus longtemps possible, on risque de choper des trucs absolument pas cool et de galérer à les soigner. Donc il y a des assos qui ont pour objet de distribuer des protections et des produits d'hygiène aux personnes menstruées qui sont sans logement ou mal logées. Et il y a notamment le super travail de la super association Règles élémentaires.
En gros, l'asso collecte des produits d'hygiène et pour ça, elle fournit en fait une boîte à dons qu'on peut installer à son bureau, à sa maison, en soirée. Il y a même des gens qui les installent dans leur mariage. Comme ça, n'importe qui peut organiser une collecte à son échelle. Et ensuite, tout est redistribué à des assos locales qui font des maraudes et qui redistribuent ça aux personnes qui en ont besoin. Donc cette asso, elle milite depuis longtemps pour un meilleur accès aux protections, notamment en proposant des distributeurs de produits d'hygiène. C'est un truc qui existe et qui est connu aux États-Unis et au Royaume-Uni. En Écosse, l'été dernier, le pays a mis en place la gratuité des protections hygiéniques dans les lycées et les facultés du pays pour toutes les étudiantes. Puisqu'après tout, si le papier de toilette est considéré comme un papier de première nécessité,
le
ça marche.
Le papier de première nécessité, avec c'est pas prise.
Si le papier de toilette est fourni et gratuit, pourquoi pas les protections? C'est aussi un produit de première nécessité. Donc voilà, si tu veux t'engager sur le sujet, il y a pas mal de façons de le faire, mais tu peux commencer par regarder le site de l'asso Règles élémentaires, donc règles élémentaires au pluriel tout attaché .com, règleselementaires.com. Et il y a aussi, parce que j'ai envie de lui faire un peu de pub, il y a aussi des artistes et des militantes qui prennent ce sujet à bras-le-corps pour briser le tabou. Je pense du coup à Irée Névrose, que je vous invite à suivre sur Instagram. Elle a testé et photographié ce que c'est de ne pas mettre de protection du tout et de continuer d'avoir une vie normale. Donc elle est à Paris, elle prend le métro, elle va à la fac, elle va voir ses potes, elle va partout en rendant ses règles visibles puisqu'on voit ses taches de sang. Alors qu'à force, nous, on excelle dans l'art d'en faire le truc le mieux caché de tous les temps. Hein. Donc voilà, pour conclure sur le sujet, je vais citer Irée Névrose. Elle nous explique « Je voulais montrer que si nous décidons de ne pas porter de protection, c'est l'espace public qui est impacté. Nous sommes donc tous concernés. Les personnes menstruées, les femmes, sont également celles qui gagnent le moins d'argent dans le monde. Ce n'est pas à nous de dépenser entre 6 000 et 25 000 euros dans une vie. Ça devrait être remboursé par l'État. Mmh. » Voilà, vous trouverez le lien vers son profil dans la description de l'épisode. Et maintenant que j'ai un peu énervé tout le monde, on passe à la rubrique qui fait du bien. Elle n'a pas changé, elle n'a toujours pas de jingle. C'est la rubrique self-care. Oui.
Fais-toi du bien. Alors, ce mois-ci, en fait, on a fait une rubrique self-care collaborative parce que, en fait, vous nous avez tout envoyé des super conseils via notamment Instagram. Alors, je vais commencer à les réponses à la question « Ah, mais t'as tes règles ou quoi ?» quand vous êtes potentiellement énervé ou quoi et qu'un mec trouve malin de vous demander si vous êtes énervé parce que vous êtes une hystérique de femme qui saigne. Et du coup, il y a eu deux personnes qui nous ont répondu par rapport à ça. Une qui a dit « Oui, Émile, tout à fait. Tu veux un shot de sang frais ?» Ou « Tu préfères tout simplement aller manger tes morts ?» Donc ça, je trouvais ça pas mal.
Un shot de sang frais, j'adore.
Perso, j'ai pas soif.
Et une autre personne qui nous a écrit « Alors, il y a deux options. Soit si j'ai mes règles, je vais lui dire « Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que tu racontes de la merde et que tu m'énerves. Quoique, j'ai peut-être moins de patience vu que j'ai mal et que je saigne de la chatte. » Donc ça, c'est pas mal aussi. Et si t'as pas tes règles, tu peux lui dire « Mais en fait, c'est pas parce que je m'agace de ta connerie que j'ai forcément mes règles. » Donc voilà. Donc...
C'est très bon. J'avais vu une vidéo dans ce genre qui disait « Oui, j'ai mes règles, mais oui. Ça n'empêche pas que tu es un connard. »
Tu es un gros con. Voilà. Ça n'a pas changé. Donc ça, c'est bien. Et après, niveau antidouleur, alors là, vous avez été incroyable. On a reçu je ne sais pas combien de messages sur ça. Alors le premier que j'ai beaucoup aimé, c'est le sexe. C'est gratuit et naturel. Donc le sexe pendant les règles, effectivement, permet de réduire les douleurs.
L'activité après, physique de manière générale, en fait.
Et l'activité
et le sexe
physique,
plus particulièrement.
Voilà.
La masturbation.
Tout à fait.
Ouais. Effectivement, de manière générale, ne pas rester inactive, essayer de bouger, même si au début, on a l'impression que ça va être impossible. Et en fait, une fois qu'on est en route, ça va mieux. Alors, évidemment, la bouillotte, le grand classique.
La très célèbre bouillotte.
Comment pourrait-on s'en passer? Le chocolat.
Oui.
Déjà,
ça fait
du bien au moral.
En noir toute l'année, même quand j'ai pas mes règles, mais ça aide particulièrement.
Ouais. Le kéfir de lait. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Et comment ça marche, mais...
J'ai pas expérimenté non plus, voilà. Mais bon, voilà, vous avez l'info.
Après, allez
Google vous
ça.
Aidera.
L'acupuncture, ça par contre, j'ai testé, ça marche. Honnêtement, ça m'a un peu sauvé la vie. Ouais. Alors, dormir avec un gant de toilette mouillé sur les yeux, pour la migraine, ou la tête coincée entre deux oreilles.
Deux oreillers. Ah oui, ça
marche. Je comprenais pas là.
Ta tête est tout le temps coincée entre deux oreilles.
C'est clair. pour la migraine, il y a aussi l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est pas mal.
Ouais.
Alors après, huile essentielle d'estragon, massage au niveau du ventre et des ovaires. Moi, j'avais testé aussi l'huile essentielle de basilic.
Ah ouais.
Qu'on mélange un peu avec une autre huile, genre une huile végétale. Pareil, en massage, et ça marche. Alors, les tisanes, il y a plein de tisanes. Alors, d'abord, la sauge, ça, c'est un truc, moi, j'ai entendu un million de fois. Je l'ai testé aussi. Alors, par contre, ce qu'on m'a dit, c'est attention, pas pendant les règles. Parce que potentiellement, ça fait comme l'aspirine.
Ah, sympa.
Donc, il vaut mieux le faire une semaine avant et potentiellement après. D'accord. Mais pas pendant.
C'est plus pour traiter les syndromes prémenstruels, du coup, tu vois.
Même la douleur, en fait. Ouais. Mais c'est juste qu'il faut le prendre en prévention et pas pendant.
Okay.
Après, on nous a parlé de tisane de framboise, framboisier, et de camomille. Donc voilà, ensuite l'huile de nacre.
Ouais, ça non plus, c'est une sucré copine à moi concentré. Qui m'en a parlé, sucre concentré.
Ah oui.
Donc c'est à prendre. Apparemment, ça aiderait aussi au niveau.
Du moral et tout ça.
Ouais, à réguler un petit peu les émotions. Donc voilà, bon, je te laisse continuer par là. Ouais.
Bah après, il y a le CBD ou la weed.
Oui.
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 Approuvé.
On fait l'apologie, là, attention. Hein.
Non, on a juste dit oui, c'est tout.
Et Antadis, mais ça c'est médicament chimique, ouais. Hein, donc c'est pas non plus, c'est pas recette de grand-mère, mais j'avoue, c'est efficace quand t'es en train de crever et que tu dois aller faire un TEDx, par exemple. Bah ouais, enfin.
Ouais, moi, le seul truc qui me calme vraiment rapidement, c'est le Pontalgine, quoi, mais c'est à base de codéine, quoi.
Ouais,
donc tu te tatanes la gueule dans le but de pas avoir
le codoliprane, ça marche
trop bien. Plus à rien, après.
Mais c'est que sur ordonnance. Mais après ouais, voilà, t'es complètement défoncé, enfin c'est compliqué.
Ben ouais.
Donc voilà, et après on avait demandé aussi si vous aviez des techniques de l'espace en milieu hostile, c'est-à-dire comment changer ses protections alors que vous êtes dans des toilettes dégueulasses ou des trucs comme ça. Alors pour la cup, avoir toujours une bouteille d'eau sur soi. Pour pouvoir la rincer quand vous la changez.
On n'a pas trop précisé ce que c'était la cup pour celles qui connaîtraient pas, mais c'est ce petit bout, ouais. Voilà, comme une petite coupe cup en silicone,
moon cup,
moon cup qu'on insère dans le vagin et qui permet en fait de recueillir le sang menstruel directement à l'intérieur.
C'est une petite ventouse en fait.
Ouais, c'est une petite ça se présente comme une petite ventouse, donc c'est pas mais toujours facile à mettre, surtout pour celles qui sont
qui
pas à l'aise avec leur corps ou qui n'ont pas envie de s'introduire quelque chose dans le vagin.
Typiquement, moi j'ai ma petite cup depuis un an et je la regarde.
Voilà.
Moi, elle est mignonne, elle est jolie.
Ouais. Moi, ça me saoule de la mettre quand j'ai pas vraiment des gros flux, quoi. Enfin,
parce que
c'est quand même pas super agréable à mettre, quoi, on va dire. Quoi.
Ouais, c'est clair. Après, c'est
une habitude à prendre.
J'ai pas mal de copines qui m'ont dit avoir repeint les murs de leur salle de bain quand même première fois. Donc, il vaut mieux s'entraîner dans la baignoire la première fois.
Si auquel tombe, on avait reçu des témoignages là-dessus de repeignage de tapis de salle de bain à la cup. Moi, ça m'est arrivé aussi, ouais.
Ouais, voilà.
C'est un peu dangereux.
Je pense que c'est pas pour
un petit peu technique.
Peut-être on peut faire de la peinture avec, d'ailleurs. Je sais pas.
Ah oui.
Ça, il y a des artistes qui peignent avec leur sang menstruel. Ça existe.
Pareil, il y a des cellules souches dans le sang menstruel.
Ah oui,
dans
on peut arroser les plantes avec aussi.
Là, c'est ça. Enfin bon, on divague. On est bon.
Les
on fera un deuxième épisode sur les menstrues, sur tout ce qu'on peut faire avec le sang de nos règles.
Après, on nous a aussi dit demander une pinte d'eau dans un bar s'il n'y a pas de lavabo dans les toilettes.
Ouais.
Donc, franchement, si vous faites ça, s'il vous plaît, racontez-nous parce que j'aimerais bien savoir la réaction du serveur. Après, stérilisateur pliable. Donc ça, moi, je ne connais pas. Mais
je ne sais pas quelle place ça plante. Oui, c'est une
pareil,
personne, justement.
Allez
qui...
googliser ça. Ouais. Et bonne hygiène des mains, forcément.
C'est
toujours mieux.
Toujours.
Mais voilà, après,
oui, chacune son truc. Hein.
C'est évidemment une liste non exhaustive. J'imagine que des techniques comme des remèdes, il y en a encore plein qu'on ne connaît pas.
En tout cas,
on a essayé avec vous de partager un maximum de stratégies différentes qui, en tout cas, ont fonctionné pour au moins une personne. Et on espère que chacun arrivera à lutter contre ses douleurs et à mieux vivre toute l'année, en fait.
Courage.
De façon plus régulière, s'il vous plaît. Voilà, donc dans le prochain épisode, nous parlerons à notre grand plaisir de sexisme et de bouffe.
Miam, 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 miam.
Ça va me plaire cet épisode. Donc au resto, en cuisine, dans les vignes, dans les champs, il est encore là, le sexisme est partout. Mais les championnes du monde de la vie sont là, elles aussi. Alors si tu as rééduqué un chef trop zélé, si tu as calmé les ardeurs d'un client ou d'un serveur misogyne, si tu as réussi à t'imposer dans ce milieu viriliste, bref, si tu as anesthésié le sexisme en cuisine ou en milieu gastronomique, écris-nous. À warriors@yespodcast.fr.
J'espère qu'on aura droit de parler de Top Chef.
On pourra en parler. Il n'y a pas de sujet interdit, tu devrais le savoir depuis le temps.
C'est vrai.
On remercie nos warriors pour leur témoignage. Merci donc à Claire, Camille, Marion, Lucie, Alexandra, Anaïs et Eugénie,
merci,
ainsi qu'à Pauline. Bravo à vous et merci d'avoir partagé vos victoires avec nous.
On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio BAM à Marseille qui nous reçoit à nouveau aujourd'hui.
Merci, merci.
Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes.
Et 1000 étoiles.
Et 1000 étoiles au passage.
Au moins 3000, 4000, 5000.
On te dit à la prochaine et d'ici là... Ton hystérie botte des fesses en mode rafale. T'es la MacGyver des temps modernes. Tu poses tes ovaires sur la commode. Bref, meuf, t'es une warrior.
Yes!